Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
Bonjour à tous, c'est parti pour l'Intégral Sport, notre rendez-vous, votre rendez-vous avec tous les directs sur tous les stades de France et de Navarre, le rugby, le foot, le vélo au programme cet après-midi avec pas mal de directs qui commenceront notamment à partir de 15h. On aura droit à deux matchs, Saint-Etienne Paris Football Club qui va ouvrir la 11e journée de Ligue 2 et le top 14 avec la première rencontre de la 7e journée du championnat de France de rugby, ce sera Brive-Toulouse. Voilà les premiers directs, donc à 15h on aura également on fera également un petit détour par Lorient, hein. C'est un peu le grand succès de ce début de saison. Lorient qui peut-être aux alentours de 19h sera tout simplement leader du championnat de France de Ligue 1. Lorient qui affrontera à 17h, on sera dans quelques minutes avec Pierre-Yves Leroux. Voilà pour le programme. On reviendra également sur la défaite du 15 de France féminin ce matin en Coupe du Monde de rugby. Elles ont été battues mais elles se sont bien défendues face aux Anglaises. Une victoire, une défaite plus exactement, encourageante. Ça vous rappelle quelque chose? On en parlera tout à l'heure avec Julien Landry. Mais tout de suite, les victoires très encourageantes et celle notamment de Mathilde Gros qui est donc devenue hier championne du monde de la vitesse. C'était sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, la piste du Vélodrome, où on va tout de suite retrouver Arnaud Souk qui veut encore des médailles. Il a pris goût avec l'or hier soir et il espère encore en avoir aujourd'hui. Salut Arnaud.
Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Les championnats du monde qui se déroulent donc sur le Vélodrome national, là où se dérouleront d'ailleurs les Jeux Olympiques en 2024. C'est une sorte de répétition générale sur ce très beau vélodrome, Arnaud.
Ça c'est sûr, c'est une sorte de répétition générale et pour l'instant, en tout cas d'un point de vue populaire, on va dire que la répétition est très très réussie parce que vraiment il y avait beaucoup de monde hier, notamment pour venir admirer la victoire de Mathilde Gros. C'était une ambiance digne d'arène romaine, c'est vraiment exceptionnel. Il y a 5000 places assises ici dans ce vélodrome qui a été inauguré en 2014. Il y avait déjà eu des championnats du monde qui s'y étaient déroulés il y a quelques années. C'est la deuxième fois qu'ils se déroulent ici. Il y aura donc les JO dans 2 ans. Voilà, on s'y prépare un petit peu. Il y a des émissaires de Paris 2024 qui viennent observer tout au long de la semaine ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire en mieux. Voilà, donc ça s'annonce vraiment exceptionnel. En tout cas, quand on regarde vraiment ce qui se passe cette semaine, on n'est pas déçu du court voyage depuis Paris pour venir à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Très bien. Alors, avant Paris 2024, il y a donc ces championnats du monde et on a obtenu hier une très belle médaille d'or. Ça faisait très longtemps qu'une sprinteuse française n'avait pas décroché l'or. Je crois qu'il faut remonter à Félicia Ballanger. Tu étais tout juste né et moi je débutais dans le journalisme, c'est dire hein, Arnaud, si ça remonte.
Et tu sais que alors bon, nous on s'en fiche peut-être un petit peu de savoir, mais c'est surtout que Mathilde Gros est née en 1999, l'année où Félicia Ballanger avait été la dernière française à être championne du monde de vitesse. Donc voilà, le clin d'œil de l'histoire est assez sympathique, on va dire.
Incroyable Mathilde Gros, une jeune fille dont on parle depuis très longtemps finalement, parce qu'elle elle a débuté. C'est pas qu'elle se soit mise au vélo très jeune, hein, on peut raconter son histoire, mais surtout elle est sortie d'un coup et on l'a annoncée comme une extraterrestre, une nana qui allait tout démolir sur son passage. Ça n'a pas été facile quand même, hein, le passage à la célébrité, gérer tout ça et aller chercher des titres. Et là, enfin, ce titre hier. Raconte-nous un peu la story de Mathilde Gros et Arnaud.
On va revenir au début. Mathilde Gros, c'est pas du tout une cycliste à la base. C'est une basketteuse très brillante, hein, qui d'ailleurs joue depuis qu'elle est toute petite. Elle est au Pôle Espoir d'Aix-en-Provence jusqu'en 2014. Son idole à elle, c'est Céline Dumerc, évidemment qu'on ne présente pas, hein, en termes de basket féminin en France. Et un jour, il se trouve qu'elle fait une séance de musculation en compagnie de l'équipe de France de BMX. Et là, elle va faire du watt bike. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Christophe. Voilà, une sorte de vélo, en tout cas sur lequel on capte de la puissance. Et l'entraîneur de l'équipe de France de BMX va se rendre compte que les données de Mathilde Gros, même si elle fait ça pour rigoler, sont juste hallucinantes. On va la faire venir à Paris. La Fédération Française de Cyclisme est alertée du phénomène. On va la faire venir à Paris, elle va passer des tests. De là vont s'enchaîner de très nombreux titres de championne de France chez les jeunes. Elle va être triple championne du monde chez les juniors, donc en cyclisme sur piste, sur des épreuves de vitesse, notamment le Kérin et la vitesse individuelle. On la compare déjà, on en a parlé à Félicia Ballanger, triple championne olympique, décuple championne du monde. Voilà, le problème c'est qu'il va y avoir un trop-plein de pression effectivement pour Mathilde Gros qui est encore très jeune à ce moment-là. Elle n'a que 18 ans au moment où elle est triple championne du monde junior. On la met très très haut, très très vite pardon, sur le haut du panier. Et malheureusement pour elle, eh bien ça va pas se passer forcément comme prévu. Il va y avoir une petite médaille de bronze au championnat du monde à Prusco en 2019, mais derrière ça va être des illusions sur des illusions. Et le summum, ça a été l'an passé, notamment notamment les Jeux Olympiques de Tokyo, où elle a vraiment, que ce soit sur le Kérin ou la vitesse individuelle, elle s'est complètement trouée, Mathilde Gros. Donc voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on va dire depuis. Entre-temps, Grégory Baugé, l'ancien champion du monde, lui aussi de vitesse masculine, a été nommé entraîneur de l'équipe de France de vitesse. Il y a peut-être eu un déclic de ce point de vue-là. Évidemment, Mathilde Gros a fait un travail sur elle-même, un travail psychologique assez long pour arrêter de se mettre la pression avant les grands événements. Mais peut-être que la présence de Grégory Baugé, et elle l'a dit d'ailleurs hier quand on l'a interviewé après sa course, voilà, a joué forcément. Parce que quand on a un gars qui est 9 fois champion du monde de vitesse et qui vient vous donner des conseils, qui vient vous entraîner... Voilà, il se passe forcément des choses, et là on a le sentiment qu'on a un duo, voilà, quelque chose d'exceptionnel qui va pouvoir aborder peut-être un petit peu plus sereinement les 2 ans à venir. Il y aura les championnats du monde de Glasgow l'an prochain et les Jeux olympiques de Paris évidemment en 2024. Il va falloir s'y qualifier, hein. Mais bon, voilà, on va dire que déjà on va savourer cette médaille dans le clan de Mathilde Gros.
Très bien, on va écouter Mathilde Gros que tu as rencontré hier. Enfin la réussite et ce titre de championne du monde. Est-ce que c'est un soulagement, sa réponse?
Je sais pas si c'est un soulagement, mais quand c'est clairement dur à l'entraînement, que en compète ça marche pas forcément, que il y a beaucoup de pression, que c'est dur, et du coup là quand je me rends compte, j'ai ce maillot, j'ai gagné, c'est la balance sacrifice bien fait, au final elle penche enfin dans quelque chose de bien, donc ouais, ça, c'est sûr que ça fait du bien au moral, quoi.
Voilà, le moral de Mathilde Gros est au top comme ses jambes, et tous ses espoirs également le sont pour évidemment Paris 2024. Il n'y a plus de compétition cette année pour Mathilde, si. Ou il reste... Si, encore.
Et il reste le Kérin. Évidemment, elle avait été plutôt pas trop mauvaise, on va dire. Pas trop mauvaise, c'est dur ce que je dis. Elle avait été un petit peu moins en mauvaise performance, on va dire, que sur la vitesse individuelle à Tokyo, sur le Kérin. Ça lui avait donné un petit peu le sourire. Donc on va voir. Je pense que demain, vraiment, je te promets, Christophe, j'ai rarement vu ça dans un vélodrome, c'est incroyable. Ça lui a donné des ailes hier à Mathilde Gros, et vraiment c'est très bon augure à 2 ans de Paris 2023.
Alors on a Mathilde Gros, mais on est très gourmand évidemment, Arnaud, et on espère qu'il y aura d'autres médailles d'or, et pourquoi pas dès aujourd'hui avec un garçon dont on a pas mal parlé, c'était l'été dernier pendant le Tour de France, notamment cette étape qui se déroulait, qui se dirigeait vers Carcassonne, il faisait très chaud, hein, c'était la pleine canicule. Toi t'étais sur la moto, nous on était dans le camion qui était en train de fondre, et ce jour-là un certain Benjamin Thomas a bien failli réaliser le coup du siècle. Malheureusement il s'est fait reprendre par le peloton à
500 mètres de la ligne,
500 mètres, ouais, c'est, j'allais dire un peu moins,
au pied des remparts
au pied des remparts de Carcassonne, mais Benjamin Thomas a plusieurs cordes à son arc, et après la route le voilà sur la piste, là où il s'était révélé, et la piste, il adore ça, et il a bien l'intention d'être champion du monde aujourd'hui, hein.
Oui, effectivement. Alors, en tout cas, l'intention d'être champion du monde, il y a plusieurs choses qui pourraient faire qu'il ne le soit pas sur cette épreuve de l'Omnium, hein, qui est en fait une épreuve combinée, on va dire. C'est un petit peu le décathlon des cyclistes sur piste, si vous voulez, même si ça reste quand même des épreuves essentiellement d'endurance. Mais c'est vrai que voilà, il veut briller justement sur l'Omnium et demain sur la Madison, et il se sait d'ailleurs très attendu. On va écouter Benjamin Thomas à propos de cette pression.
Sur ces courses-là, ça sera monter sur le podium. Je sais que je suis observé par mes adversaires, sur l'Omnium ou même l'Américaine, on est toujours une équipe de référence, donc on va essayer de faire avec. Et voilà, je sors d'une longue saison sur la route aussi, donc il y aura à prendre en compte l'état de fraîcheur et l'état de fraîcheur mentale aussi.
Voilà, car le Tarné est un véritable touche-à-tout du vélo, hein. On l'a dit, Christophe, il s'est enfin révélé cette année sur la route, à deux doigts donc de remporter une étape lors du dernier Tour de France à Carcassonne. Il n'en a pas pour autant oublié justement son amour pour la piste, Benjamin Thomas.
Moi j'adore la compète, j'adore courir, et ça me dérange pas d'enchaîner les compétitions entre une grosse saison sur route. J'ai toujours la passion, l'envie de retourner sur la piste en fin de saison. J'aurais pu dire non, je fais pas les mondiaux, je fais l'impasse, je pars en vacances. Mais non, j'ai vraiment la passion de venir sur ces championnats. J'arrive à très rapidement passer de la route à la piste.
Avec succès, donc, puisque 4 couronnes mondiales, voilà ce qu'il détient, Benjamin Thomas, sur piste, notamment sur la course au point, sur l'Omnium, sur l'Américaine. Il est de loin le Français le plus titré en cyclisme sur piste ces dernières années. C'est un modèle même pour son coéquipier en bleu, Thomas Bouda.
Bah, c'est lui qui a le plus de résultats, donc c'est lui qui est un peu le leader de l'équipe de France, qui tire aussi tout le monde vers le haut par ses résultats, et ça nous motive tous. Et c'est bien parce qu'il nous fait part de son expérience et ça fait progresser le groupe.
Voilà, reste à savoir si son état de forme permettra aujourd'hui à Benjamin Thomas d'être au top, hein. Lui qui a souffert de vertige en milieu de semaine, il a notamment dû céder sa place pour ce qui était pourtant l'un de ses objectifs prioritaires de la semaine, la poursuite par équipe. Voilà, c'est vrai que la saison a été très longue, il est arrivé, il a eu quelques petits vertiges en milieu de semaine, et bon, même ça, si ça n'avait pas l'air très grave, hein, selon ce que nous disait son entraîneur, l'entraîneur de France de vitesse, d'endurance, pardon, Steven Henry, mais voilà, on va voir quand même ce que ça donne ce week-end.
Très bien, le programme donc de Benjamin Thomas au cours de ce samedi et de ce dimanche, parce qu'il sera aligné sur plusieurs épreuves, hein.
Alors l'américaine, donc ça sera demain, une course en duo sur laquelle d'ailleurs il est médaillé de bronze olympique l'an passé à Tokyo. Aujourd'hui il y a la course scratch, hein, donc qui s'est d'ailleurs d'ores et déjà déroulée. Alors j'ai pas le résultat sous les yeux pour tout te dire, Christophe, de la course scratch, parce qu'il ne veut pas se mettre à jour tout de suite. Il y aura ensuite donc la course tempo, une sorte de course au point. Il y aura une course à l'élimination et enfin une ultime course au point. Je sais que celle que tu va suivre en particulier, Christophe, c'est la course au point, parce que la course à l'élimination, parce que celle-là elle est quand même assez sympathique. C'est en fait on élimine tous les deux tours un coureur, le dernier coureur qui passe la
dégagé.
Voilà, exactement. Donc c'est assez sympa. Je peux te dire qu'ils sont à 60 à l'heure et à la fin ils sont complètement rôtis.
Complètement cramés. C'est pas pour nous ça. Très bien. Et eh ben on va suivre ça avec toi tout au long de l'après-midi, à partir de 17h30, c'est ça, hein, pour les finales et pour les rendez-vous importants, hein,
mais il y en aura. Absolument. Alors il y aura la deuxième course de l'après-midi à 15h40 pour Benjamin Thomas. La dernière, ce sera sur les coups de 20h. Ça va durer une trentaine de minutes environ. Et puis entre-temps, on aura quand même aussi les premiers tours, hein, de la vitesse individuelle masculine. On observera notamment Tom de Rage, Ryan Elal côté.
Alors on lui a coupé la chic. Il va revenir tout à l'heure, Arnaud, pour nous faire vivre ces grands moments donc lors des championnats du monde de cyclisme sur piste qui se déroulent à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est 14h18, dans un instant le foot sur RMC. Vous savez que c'est un grand week-end, demain journée spéciale avant Paris Saint-Germain OM. Il y a de belles rencontres aujourd'hui, notamment un Saint-Étienne Paris Football Club qui débute dans 40 minutes, et puis un peu plus tard Lorient-Reims. Les Merlus en passent peut-être d'être tout simplement ce soir à 19h leader du championnat de France. Pour cela, il leur faut battre Reims. On en parlera tout à l'heure avec Pierre-Yves Leroux. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h23 sur RMC. On va s'intéresser au ballon rond, évidemment. Vous le savez, grand week-end de foot qui se terminera demain 21h par ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Mais il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Marseille dans la ville. Il y a aussi Lorient. Lorient, dauphin du Paris Saint-Germain, et qui tout à l'heure, aux alentours de 18h45, pourrait bien tout simplement être en tête de la Ligue 1. Je ne sais pas si ce serait la première fois de leur histoire. Je vais me tourner pour cela vers l'historien du football breton. J'ai nommé Pierre-Yves Leroux. Bonjour, monsieur Leroux.
Salut, Christophe. Bah écoute, oui, c'est on peut considérer que c'est une première. C'était arrivé une fois en tout début de. Oui, c'est quasiment fait.
Ah oui, d'accord.
Non, mais c'est arrivé en tout début de championnat il y a quelques années, mais c'était sur une journée. Ça devait être à la troisième ou quatrième journée, donc c'était un petit peu anecdotique. Mais évidemment, si l'Orientais s'imposait aujourd'hui face à Reims, ça serait vraiment, après autant de journées, une première dans l'histoire. De toute façon, ils sont en train de battre tous les records, hein. C'est assez incroyable. 6 succès d'affilée, c'était jamais arrivé. Juste pour mémoire, la meilleure place de Lorient à la fin d'un championnat, c'est 7e en 2010. Ils ont fini deux fois 8e. Là, ils sont sur des bases qui sont beaucoup plus élevées, puisqu'on a un collègue de la presse quotidienne régionale qui s'en amusait il y a quelques jours en disant, à ce rythme-là, ça fera 92 points en fin de saison pour le FC Lorient.
Ah oui, on est très optimiste quand même. On est très optimiste. Un jour, la plaisanterie s'arrêtera quand même, mon cher. Enfin non, j'espère pas, évidemment.
C'est peut-être pas une plaisanterie quand même, parce que non, mais quand ça dure 3-4 journées, on peut parler de plaisanterie.
Surtout, ne le prenez pas au premier degré, parce que tu sais, de temps en temps.
Tu vas voir tous les supporters orientés qui vont te tomber dessus. Non, mais c'est le fruit, on en a beaucoup parlé, hein, depuis quelques journées, du travail de Régis Lebris, de la formation, et il suit tout ce travail qu'il effectue depuis 10 ans. Et il en bénéficie, hein. C'est ce qu'il explique aussi, puisqu'il y a un projet de jeu maintenant qui peut être mis au niveau de l'élite. Et puis ça fait bouger quand même, évidemment, du côté de la ville de Lorient. Là aussi, on peut peut-être resituer, Christophe, parce que les gens connaissent Lorient dans le foot depuis maintenant 25 ans avec l'histoire de Christian Gourcuff. mais ça reste une petite ville hein, quand même. C'est 57 000 habitants, ça veut dire c'est parmi les plus petites villes de la Ligue 1. Je crois que Lens, ça doit être 30 ou 35 000 à peu près. Auxerre un petit peu plus petit, mais on est vraiment dans des toutes petites villes. On double avec l'agglomération, on est un peu au-dessus des 100 000, mais ça reste quand même tout petit. Donc il y a une effervescence là qui est en train de remonter autour du stade du Moustoir. Ça sera plein tout à l'heure, il reste quelques dizaines de places à vendre hier. Il y a presque 7000 abonnés, donc voilà, il y a quelque chose qui se passe forcément parce que les gens aiment le beau jeu et il y a du beau jeu actuellement du côté de Lorient.
Je me rappelle, on en a parlé cet été avec Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, qui a été maire de Lorient, je crois, hein, pendant plusieurs années. Et qui était un fan absolu des Merlus. Hein.
Et de Christian Gourcuff.
Et de Christian Gourcuff.
Ouais, parce que c'est la patte, hein, Gourcuff. Régis Lebris, il s'en cache pas. Il reprend le 4-4-2 de Christian Gourcuff. Et c'est vrai que c'est agréable pour les supporters de pouvoir avoir son club, vivre ça, avoir son club, un petit club entre guillemets qui peut être qui est à la bagarre avec Paris et Marseille.
Oui, parce qu'en début de saison, tout le monde pensait que Lorient serait à la bagarre pour se maintenir. Hein, c'était plus ça. Dans les pronostics.
Oui, parce que l'année dernière, ça avait été très compliqué.
Exactement.
Il y avait un nouvel entraîneur, un jeune que les gens ne connaissaient pas forcément, donc évidemment ça doutait énormément. Mais en même temps, quand on regarde au niveau de la campagne d'abonnement, bah il y a presque 7000 abonnés et c'était déjà beaucoup plus que l'année dernière. Donc je pense qu'il y avait un espoir un peu de revoir quelque chose. Mais c'est vrai que allez Christophe, je vais pas te faire de piège, mais les joueurs de Lorient, tu les connais sans doute peu ou pas, et les amateurs de football les connaissent pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça repose pas beaucoup sur des individualités, ça repose sur un vrai collectif, un vrai projet de jeu. Alors les gens commencent à connaître Terem Moffi. Parce que
oui, Moffi quand même, il est pas mal. Il y en a combien là ? 8 buts, c'est ça ?
Exactement, ouais, c'est des stats assez incroyables pour Terem Moffi. Et puis il y a le petit Enzo Lefebvre qui est aussi une des pépites.
Et le petit neveu de l'entraîneur aussi, comment il s'appelle ?
Théo Lebris, ouais. Exactement, Théo Lebris qui a marqué ce but magnifique là, qui a donné la victoire il y a quelques jours aux Lorientais alors qu'ils étaient sur un match nul à 3 minutes de la fin et ça a rajouté à l'ambiance du côté du Moustoir et de Lorient. Donc on va voir ce qu'on va vivre tout à l'heure face à une équipe rémoise qui elle est en difficulté, qui a changé de coach et qui aura l'adjoint sur le banc, donc une situation un petit peu même très différente pour les Rémois. Donc Lorient peut appuyer encore un peu plus sur le champignon. Régis Lebris lui dit le classement il est encore anecdotique pour le moment, mais il commence à dire quand même quand on sera maintenu, c'est-à-dire avec 40-42 points,
oui, ça va pas tarder. Hein.
Commencer. on peut se dire que à la trêve là de la Coupe du Monde, à la pause Coupe du Monde, s'ils continuent sur ce rythme-là, ils en seront pas très loin effectivement. Et ça permettrait d'avoir une deuxième partie de saison quand même très flamboyante avec des espoirs, pourquoi pas, de jouer la Coupe d'Europe. Ils ont joué deux matchs de Coupe d'Europe dans leur histoire. Les Merlus, c'était après la victoire en Coupe de France en 2002. C'était pas avec Christian Gourcuff, c'était avec Yvon Pouliquen. Ils avaient été sortis par Denizlispor.
Ouais. Les temps changent et cette équipe de Lorient qui en cas de victoire passerait donc devant le Paris Saint-Germain en attendant évidemment le classique demain entre Paris et Marseille. Bonne route monsieur Leroux, on vous attend tout à l'heure aux alentours de 17h au Moustoir donc pour ce match entre Lorient et Reims qui vient de changer d'entraîneur et qui n'est pas au top mais bon peut-être avec le changement d'entraîneur l'effet psychologique sait-on jamais. 14h29 l'effet psychologique on l'attend toujours à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est descendu en Ligue 2. On disait, en Ligue 2, ça va être plus notre niveau. On va cartonner ça. Hein ? Mais on cartonne rien du tout. Les Stéphanois sont à la rue. 18e, mon cher Edouard, c'est quand même pas terrible pour un club légendaire du foot français quand même. Bonjour Edouard.
Bonjour Christophe, le spécialiste du ski.
À chaque fois que je parle de ski,
je regarde. J'ai un bip bip.
Et attention à ce que tu dis.
Attention, mais je préviens tout le monde, ne jamais monter sur un télésiège avec Christophe Cessieux. Alors revenons donc à nos moutons verts qui auront d'ailleurs aujourd'hui pour Octobre Rose rose, un liseré justement rose sur leur maillot, en espérant peut-être que ça leur porte un petit peu bonheur, que ça leur donne un peu d'éclaircie, parce que tu l'as dit, 18e, 8 points, 11 matchs. On se rappelle que les Stéphanois sont partis avec 3 points de débours, donc en début de saison, ceci explique aussi cela. Mais avec 3 points de plus, ça fait pas beaucoup bien de place gagnée dans un stade qui sera pas bien plein, bien évidemment, puisque ce sera le dernier match avec une tribune à huis clos, celle du COP Sud, et 18 000 personnes cet après-midi ici. Une équipe de Saint-Etienne qui a un besoin urgent de points, notamment avec cette 18e place, mais qui va s'avancer face à des Parisiens sans son homme vedette, son homme but, Jean-Philippe Crasso, 8 buts, 3 passes décisives. C'est monsieur 58% des réalisations des Verts, donc il ne sera pas là. Donc ça veut dire que Laurent Batless a dû réinventer son 11 de départ, avec notamment aussi, a priori, une nouvelle organisation tactique de sa défense, parce que c'est la moins bonne défense, mon cher Christophe, de Ligue 2, Saint-Etienne.
Ben oui, 21 buts encaissés, c'est ça. Ouais,
donc, comme il l'a dit en conférence de presse cette semaine, Laurent Batless, voilà, faut pas être borné, donc faut voir des changements. Et du coup, a priori, ça va être une défense à 4 pour des Stéphanois qui vont devoir absolument mettre des points dans leur escarcelle dans cette période, juste avant la trêve de la Coupe du Monde, parce que sinon, eh ben, on va penser peut-être que les Verts vont lutter pour la descente.
Bah oui, là, ça serait quand même terrible.
Hein.
Ah là, tu peux... Est-ce que les supporters qui sont revenus à Geoffroy Guichard depuis quoi? Depuis 15 jours?
Le dernier match, voilà, c'est ça, le dernier match.
Continuent quand même à suivre. Bon, c'est vrai qu'ils ont été frustrés de ne pas pouvoir voir leurs joueurs pendant plusieurs semaines. Est-ce que là, cet après-midi, par exemple, il y aura du monde pour la réception de Paris?
Alors, comme je disais, 18 000 personnes sur un potentiel. Non, mais simplement par rapport à 33 000 potentiels. Voilà, c'est un demi-stade, on va dire. Donc il y a quand même toujours ce noyau dur qui est là, qui a hâte de voir des bonnes performances des Verts, qui prennent, malheureusement, on l'a dit, beaucoup de buts. Et à l'image d'ailleurs du match à Sochaux lundi soir dernier, ça, ils arrivent à marquer, mais le problème c'est qu'ils se font aussi très peur. Et le fameux match face à Grenoble résume tout aussi, ici. Ils mènent 2-0, mais voilà, finalement ils sont menés 1-0, derrière ils renversent la vapeur, on pense que tout est fait, mais voilà, ils vont prendre un deuxième but. Donc le foot, il faut marquer un but de plus que l'adversaire, mais c'est plus simple de gagner 1-0 d'une certaine manière que de gagner 3-2 quoi, ou 4-3. Donc il faut resserrer un peu la vis, et c'est sûrement ce qu'a demandé tout au long de la semaine Laurent Batless, donc pour son équipe cet après-midi ici. Et imagine, mon cher Christophe, que tu vois, on commence à être la mi-octobre, je connais un petit peu la région. Non, je me dis, j'ai mis l'option gants, bonnet, pull dans la voiture, en me disant peut-être que je vais les inaugurer aujourd'hui, parce que je suis parti de Lyon et le temps était couvert.
Ouais, ben voilà. C'est ça, et là, la différence. À Saint-Etienne, le soleil brille, à Lyon.
Exactement, voilà. Ouais, ça dépend. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, là, on peut le dire, grand soleil cet après-midi, donc il va faire chaud sur la pelouse.
D'accord. Bon, à Lyon, il va se passer des choses aussi. Demain, il y a quand même.
Oui, moi, j'ai que des équipes souffreteuses, moi, tu vois, entre le Loup, l'OL, Saint-Etienne. Heureusement que Grenoble et Annecy vont un peu mieux, mais bon.
Et heureusement que le ski français va cartonner. Hein,
exactement, voilà. Et que ça va commencer la semaine prochaine, et qu'au mois de février, on aura des championnats du monde à la maison.
En espérant avoir de la neige, bon monsieur.
Mais oui, autrement, on en fabriquera. La neige de culture.
Oui, mais je sais, t'as vu, j'ai appris au bout d'un moment, à force de me répéter, je commence à comprendre. Merci Edouard, on te retrouve dans 25 minutes pour le coup d'envoi de ce Saint-Etienne Paris Football Club. Dans un instant, le rugby. On revient sur la défaite encourageante de l'équipe de France féminine ce matin, battue par l'Angleterre, mais qui a bien résisté, qui a bien failli provoquer la surprise en fin de match. Et puis on va également s'intéresser à la 7e journée de Top 14 qui débute à 15h avec Brive Toulouse. Julien Brugnot va m'accompagner dans un instant, et nous serons avec Julien Landry pour les filles, Damien Tardieu pour les garçons. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
14h38 sur RMC, on attend toujours nos premiers directs. Ce sera donc pour dans 20 minutes maintenant, à 15h, le début de Saint-Etienne Paris Football Club en foot, en Ligue 2, et également le coup d'envoi de Brive Toulouse. On en parlera dans quelques instants avec Damien Tardieu. C'est l'ouverture de la 7e journée du Top 14. Le rugby, c'est avec Julien Brugnot qu'on en parle. Comment il va, Julien? Ça fait longtemps que
bonjour,
t'as
Christophe.
Pas vu.
Oui, ça fait plaisir de revenir un petit peu ici. Hein,
lui qui habite maintenant à Bourg-en-Bresse, voisin de David Douillet, ou presque.
Exactement, on n'a pas eu la chance encore de le croiser, mais
on l'invite au stade un peu là, il y a un qui se déplace au stade. Julien, on va accueillir un autre Julien qui nous a fait vivre ce matin le match entre la France et l'Angleterre. C'était le crunch des filles, le crunchy, on l'appelait comme ça. Bon, je sais pas si ça a été bien vu. Hein, Julien, salut Julien, rebonjour.
Salut Christophe, salut Julien, salut à tous.
Entre la France et l'Angleterre.
Attention, t'as raison maintenant.
Ouais, ouais, faut faire gaffe à tout ce qu'on dit, tu sais. Hein, on peut se prendre des coups, des mauvais coups mal placés. Donc France-Angleterre, c'est quand même une rencontre traditionnelle, que ce soit évidemment chez les garçons, mais aussi chez les filles. Même si chez les filles, on a beaucoup plus de mal à les battre, cette diablesse d'anglaise. Et une nouvelle fois, ça a été le cas ce matin, puisque les Françaises se sont inclinées, mais en offrant une très belle résistance, Julien. Elles nous ont fait plaisir, notamment en deuxième mi-temps, où on les pensait capables de reprendre les Anglaises. Bon, il aurait manqué un tout petit quelque chose, mais en tous les cas, elles ont montré qu'elles existaient dans cette Coupe du Monde et qu'il allait falloir compter sur elles lors de la suite de la compétition.
Ouais, on les a plus battus depuis le 10 mars 2018. C'était à Grenoble, une victoire 18-17. Ça fait donc 11 matchs d'affilée que les Anglaises nous battent. Et c'est peut-être l'un des matchs où les Françaises ont fait le preuve de plus d'abnégation, en tout cas défensive. C'est vrai qu'elles ont passé beaucoup de temps à défendre. 214 plaquages effectués par les Françaises ce matin contre seulement 74 pour les Anglaises, avec notamment la troisième ligne qui a été auteur de 24 plaquages pour Mayence, pour Escudero, preuve en tout cas de la férocité du combat qu'ont offert les Françaises ce matin. Alors évidemment, il y a quelques regrets, parce qu'on se dit que, tu l'as dit, hein, lorsque Gaëlle Hermé vient marquer cet essai à la 64e minute et que les Françaises reviennent à 13-7, on a le sentiment à ce moment-là de la rencontre en tout cas, qu'elles sont en train de dérégler le jeu des Anglaises. Pour la première fois, elles ont réussi à récupérer un ballon en touche. Les Anglaises ont fait 20 prises sur 21 lancées. Et on sent que physiquement, les Françaises ont pris un léger ascendant. Mais on regrettera peut-être, Julien, la fébrilité des Françaises dans les 5-6 dernières minutes, notamment sur ce ping-pong rugby engagé face aux Anglaises. Et il y avait peut-être mieux à faire pour les Françaises. Tenter, en tout cas, d'aller essayer de bouleverser ce rideau défensif. Elles se contentent du point de défensif. Mais c'est vrai que défensivement, elles nous ont offert un spectacle assez impressionnant ce matin.
En vue de les retrouver dans les phases finales, dans les matchs éliminatoires, oui. C'est vrai que c'est intéressant quand même d'avoir pu montrer qu'on était capable de rivaliser sur leur point fort, hein, qui est la domination physique sur les portées. Les Françaises l'avaient expliqué cette semaine, elles avaient beaucoup travaillé justement pour rivaliser et elles ont plus que réussi. Après, malheureusement, il y a suffi de quelques détails pour que les Anglaises arrivent à passer cette ligne. Mais tu parlais de Marjorie Mayence qui a fait un 24-24 en défense. C'est incroyable, oui. mais c'est le strict minimum aujourd'hui pour se mettre au niveau de cette équipe anglaise qui domine le rugby mondial féminin. Je pense que, tu me dis si je dis une bêtise, mais je crois qu'elles sont sur 25 victoires d'affilée.
27.
Plus que ça. 27 victoires, oui. 27 victoires d'affilée, toi. Donc je dis des bêtises. Ben, c'est impressionnant, c'est cette domination, cette ultra domination. La seule deuxième équipe, il me semble, c'est les Black Ferns. On les a battus, on a réussi à les battre. Ils sont dans nos cornes, mais les Anglaises, il nous manque. Il faudrait qu'on fasse un match parfait. Parfait pour pouvoir les inquiéter.
On a une idée.
Preuve de la domination, Christophe. Ouais, ouais, preuve de la domination. Aucune nation, ni masculine, ni féminine, dans l'histoire du rugby, n'a enchaîné autant de victoires d'affilée dans son histoire. Même les Blacks. Elles n'ont plus perdu depuis 2019, les Anglaises, aujourd'hui. Elles en sont à 27 victoires consécutives. Ouais. Elles vont encore s'imposer la semaine prochaine. C'est aujourd'hui la meilleure nation du monde. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les Françaises n'ont pas été très loin ce matin.
Ouais. On en parlait avec Lénaïc Corson, qui joue désormais dans le championnat anglais, qui nous disait que c'est quand même le jour et la nuit entre le niveau et surtout les conditions de travail, les conditions de d'entraînement des Anglaises et des Françaises. Il y a quand même encore un monde, même si évidemment il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans le rugby féminin pratiqué en France. Alors est-ce qu'on en sait, alors les Anglaises sont déjà qualifiées pour les quarts de finale, est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur la suite de la compétition pour les Françaises, parce que le but c'est évidemment de retrouver les Anglaises le plus tard possible, hein, Julia.
Ouais, alors accroche-toi pour comprendre la complexité de la Coupe du Monde féminine. Donc il y a 3 poules de 4 équipes. 8 équipes vont se qualifier pour les phases finales. Donc les Anglais sont déjà évidemment qualifiés. Le point de bonus pour les Françaises va évidemment compter parce qu'en gros les 2 premières équipes de chaque poule se qualifient et ensuite tu qualifies les 3 meilleures, les 2 meilleures 3e. Donc en gros les Françaises aujourd'hui vont se qualifier en battant les Fidji la semaine prochaine. Sauf que
le but,
ce qui
quoi
est très important, c'est le nombre de points.
Ouais, numéro 5,
il faut avoir le plus de points
6,
parce qu'en fait. Non, même pas, parce qu'en fait, ils vont reprendre les 8 équipes qualifiées, et celle qui aura le plus de points sur les 8, eh ben, elle sera première, et celle qui aura le moins de points parmi les 8 sera 8e. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être retrouver un France-Angleterre en quart de finale, ce qui paraît peu probable aujourd'hui, vu que les Françaises vont s'imposer. Mais en gros, le premier n'affrontera pas le troisième d'un autre groupe. On va remettre les 8 équipes ensemble, et celle qui aura le plus de points sera première, et celle qui aura le moins de points sera 8e.
Des 8 avec
exactement.
Plus de points et du 1-8, donc le
donc
1
aujourd'hui, les Anglaises,
le 8,
les Anglaises ont 9 points. Nous, on a 6 points. Donc c'était important le point de bonus défensif ce matin. Donc en gros, on devrait basculer la semaine prochaine avec 11 points
et
on devrait
être
parmi les 4 meilleures nations. Exactement, les Fidji la semaine prochaine. Et d'ailleurs Thomas Darak s'est exprimé ce matin à l'issue de la rencontre.
On va l'écouter justement Thomas Darak.
Exactement, oui, il était presque satisfait.
Le sélectionneur de l'équipe de France.
On peut être satisfait par rapport à la qualité de l'engagement, par rapport à une défense très efficace, par rapport aussi à un bon équilibre par rapport au ballon. Voilà, on est un peu frustré parce qu'on est là pour gagner. Donc, et on sentait ce match, voilà, malgré quelques petites fautes à des moments clés, on se dit qu'on avait la place pour les prendre ce soir. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas encore le bon soir. Il faut espérer que ce soit juste avant la fin de la compétition. Le dernier soir, ça serait bien.
Voilà, le sélectionneur de l'équipe de France.
Ça sera le 12 novembre.
12 novembre. Est-ce qu'on en est revenu à l'époque des défaites encourageantes? On a l'impression, à vous écouter, messieurs, quand même, que c'est un peu ça, non? Hein, Julien? Bruno?
Non, mais il y a une.
Ah, il faut simplement respecter aussi le passé de cette équipe anglaise qui ultra domine. Donc après, il faut savoir d'où on part, où on en est actuellement. C'est vrai qu'il y a un énorme travail qui est fait notamment sur le championnat de France de rugby féminin, beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus. Les staffs sont plus étoffés. On avance petit à petit, on en est très loin du championnat masculin, on est d'accord. Mais la Fédé met beaucoup d'importance à développer le rugby féminin. On avance petit à petit.
Il y a pas mal de licenciés supplémentaires dans le rugby féminin et certaines aujourd'hui sont professionnelles ou semi-professionnelles. Merci.
Avec un coup dur, juste Christophe, juste un petit mot, un coup dur pour la suite de la compétition.
C'est la blessure
de Laure Sensus. Alors, Romane Ménager, c'est un KO. Alors, elle a subi beaucoup de KO dans sa carrière, donc il va falloir suivre l'évolution pour la numéro 8 Montpellier-Rennes, voir si elle va pouvoir prétendre à rejouer d'ici la fin de la compétition. Alors peut-être pas les Fidji la semaine prochaine, mais par contre Laure Sensus, on est très inquiet parce que son genou a tourné en début de la partie. Elle est sortie avec sur béquille et en civière et on est très inquiet pour la meilleure joueuse de cette équipe de France, meilleure joueuse du dernier tournoi à destination. Et là, ça serait un vrai coup dur pour l'équipe de France si elle venait à perdre aujourd'hui Laure Sensus jusqu'à la fin de la compétition. On va évidemment suivre l'évolution de la blessure du numéro 9, de la numéro 9 de l'équipe de France.
Et sa remplaçante, qui n'est autre que sa coéquipière et sa compagne dans la vie, Pauline Bourdon, a fait une très belle entrée. Donc quand il n'y a plus l'une, il y a l'autre. Elles sont toutes les deux d'un très haut niveau, même si évidemment Laure Sensus est sans doute la meilleure joueuse française. Merci Julien. Bon après-midi. On se retrouve très bientôt pour parler de rugby féminin sur RMC. On va maintenant passer aux garçons avec le top 14, ouverture de la 7e journée qui va débuter donc dans un quart d'heure. Ça se passe au Stadium de Brive où on va retrouver Damien Tardieu pour ce match entre Brive et Toulouse. C'est un affrontement entre anciens champions d'Europe. Et oui, Brive a remporté le titre européen. Ah, monsieur Tardieu n'était pas né,
Si, si, quand même, j'avais quelques années. Contre Cardiff, me semble-t-il.
Exactement, final, 1997, me semble-t-il.
On était jeunes,
Oui, vous étiez jeunes, mon cher ami. Nous aussi. Julien, t'as l'air de douter, c'est pas 97
Brive-Cardiff, non, c'était pas la date, c'est Brive.
C'était, il y avait Toulouse-Cardiff en finale de la première Coupe d'Europe.
Ouais, c'était pas Leicester.
Et Brive avait fondé les Tigres de Leicester, ouais, exactement. Ils ont gagné une finale et l'année d'après, ils l'ont perdu.
Et ils l'ont perdu, il me semble, à Bordeaux. Contre Basse.
C'est une encyclopédie de rugby, ce Julien Brugnot. Magnifique. Brive Toulouse, maintenant, c'est pas tout à fait le même niveau entre les deux grands clubs. Les deux grands clubs, Brive, qui a du mal dans ce championnat. Ils sont 11e, les Brivistes, et ils affrontent évidemment l'équipe numéro 1 qui n'en finit plus de marcher sur ses adversaires avec pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 victoires en 6 matchs depuis le début de la saison. Et pourtant, Toulouse fait tourner. Est-ce qu'il en sera de même cet après-midi? Est-ce que Hugo Mola a décidé de changer un peu son 15 de départ de manière à faire souffler tout le monde pour affronter Brive, Damien?
Ouais, il a quelques soucis d'effectifs, Hugo Mola, enfin des soucis entre guillemets. On aimerait bien pour beaucoup de coachs avoir les mêmes soucis. Il y a quelques blessés côté toulousain, mais quand même, autant lors des matchs à Pau notamment ou à Montpellier, il avait laissé quelques internationaux, quelques joueurs qui vont être sollicités très fortement dans les prochaines semaines au repos, autant là tout ce qu'il y a de disponible quasiment est aligné. Je vous donne notamment les lignes arrière côté toulousain, une charnière Dupont-Ramos, c'est plutôt pas mal, sur les ailes Lebel, Bonneval, Guitoun et Barassi au centre, et puis Melvin Jaminet derrière, c'est plutôt pas mal, avec Arthur Rottière ou Juan Cruz Malia sur le banc. On peut faire pire bien évidemment, il y a des absents devant côté toulousain, mais c'est quand même une équipe qui a de la gueule forcément. Pour l'instant, les rotations engagées par Hugo Mola depuis le début de la saison sont positives, avec une seule défaite pour les Toulousains. Il y a une sorte d'émulation qui est mise en place et les Toulousains ne viennent pas avec les mains dans les poches dans ce match à Brive, clairement.
Ouais, surtout ne pas aller à Brive avec les mains dans les poches, même si les Brivistes depuis le début de la saison, Julien, ont pas mal de difficultés, notamment à la maison. Je crois qu'ils restent sur deux défaites d'affilée à Brive, ce qui n'est pas le genre de la maison quand même, hein. D'habitude, ouais, ils vendaient chèrement leur peau à la maison, hein.
Deux défaites à la maison, c'est incroyable, surtout devant ce public, hein, qui est toujours, qui répond toujours présent. Après, attention, aujourd'hui, Toulouse, hein, vient, donc il y a du remaniement, on est d'accord, mais c'est un peu une volonté sur l'année entière. C'est pas par rapport à des blessures, c'est vraiment une volonté pour justement créer une émulation et vraiment pour créer aussi, anticiper les rendez-vous internationaux, donner du temps de jeu aux joueurs qui vont jouer, qui vont être très, très importants pendant cette période-là. Et je pense que Hugo Mola a coché cette date. Aujourd'hui, Brive est amoindri, hein, beaucoup de blessés. Il me semble, alors, juste en tête de liste, leur capitaine, Saïd Erech, encore blessé, encore convalescent. Ouais. Donc s'il y a bien une opportunité, c'est bien aujourd'hui pour Toulouse, surtout pour préparer et engranger le maximum de points avant d'attaquer la période internationale.
Exactement. Mais Damien.
Oui, les Brivistes qui ont perdu certes deux fois ici. Alors la première défaite face au Loup, ils avaient pris un point de bonus un peu miraculeux, 31-27. Mais j'étais lors du match face au champion de France Montpellier, une défaite 31-26 où ils avaient vraiment montré un très beau visage. Ils auraient même pu l'emporter en fin de partie avec une mêlée qu'ils ont mal négociée alors qu'ils étaient dominateurs dans ce secteur de jeu. Alors certes, il y a des options côté Brivistes, mais c'est vrai qu'il y a deux défaites ici au Stadium, mais deux défaites de justesse face à des gros bras quand même, et notamment Montpellier, ce qui peut donner de l'espoir. Ils le savent, les Brivistes. Il faut qu'ils sortent quasiment le match de leur saison pour espérer prendre deux points, et ils en ont besoin, des points. 11e avec 11 points, les Brivistes.
Bon, grosse ambiance cet après-midi au Stadium, c'est plein, toute la région s'est déplacée, toute la Corrèze est là,
toute la Corrèze est là, effectivement. En tout cas, c'est guichet fermé pour ce qui est des tribunes. Il restait encore ce matin quelques places en pesage, mais ça sera quasiment plein. Alors que là aussi, c'est vrai que l'affluence était plutôt en baisse régulière depuis quelques mois à Brive. Ouais. À peine 9000 personnes sur les deux premiers matchs de la saison. Le Loup et Montpellier, c'était quand même pas mal. Là, on vient peut-être plus voir Toulouse, mais bon, quand même, la fibre corrézienne est réveillée, évidemment, parce que toute la région, l'ancienne région Limousin, attend cette confrontation face aux multiples champions de France et d'Europe.
Mais c'est vrai qu'on vient souvent voir Toulouse, c'est un peu le PSG du dieu rugby, les stars de l'équipe de France notamment, qui seront en partie là cet après-midi pour cette rencontre donc entre Brive et Toulouse. Dupont sera là, notamment Dupont, confirmé capitaine du 15 de France. Le petit génie de rugby français est là, et lui, à lui seul, ça vaut le déplacement, ça vaut le prix payé pour aller assister à un match. Damien, Julien, on se retrouve dans quelques instants justement pour le coup d'envoi de ce match entre Brive et Toulouse. Il y en aura d'autres tout au long de l'après-midi, notamment à partir de 17h. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h01, c'est parti sur les terrains de Top 14 et de Ligue 2 pour nos deux directs de l'après-midi. Le rugby, évidemment, le Top 14, 7e journée, et la Ligue 2, Saint-Etienne, Paris Football Club. On commence par le foot. Édouard, Geoffroy Guichard qui est plein pour cette rencontre entre Stéphanois et Parisiens.
2 minutes de jeu, 0-0 avec un premier coup franc pour Anin, mais finalement ce ballon est allé au-delà des limites du terrain dans une ambiance vraiment superbe. Et ici, on rappelle que le stade est aux trois quarts ouvert, puisqu'il y a encore une tribune qui est à huis clos suite à tous les incidents de l'année dernière. Dans le prochain match, ce sera totalement plein, le stade, et donc on aura totalement soldé en termes de points et de matchs à huis clos tous les incidents de la fin de saison dernière. Revenons au jeu avec cette équipe de Saint-Etienne qui a changé, comme je vous le disais. Donc cette défense désormais à 4 peut finir la défense à 5 qui posait au aussi des soucis pour Laurent Batless. Donc ne pas être borné, c'est ce qu'il disait en cette semaine. Et bien il a mis ses directives en place puisqu'il y a ce changement tactique. Et on va voir comment cette équipe stéphanoise, habituée justement à cette défense à 3 ou à 5 avec les deux pistons sur le côté, comment elle va se débrouiller dans cette partie 0 à 0 pour le moment, sous le chaud soleil de Geoffroy Guichard.
À tel n'en point, rajoute pas non plus.
Mais si, mais si tu as les écrans, regarde les trois quarts du Cop Nord, eh bien, ils sont, comme on dit, torse-poil.
C'est un microclimat stéphanois.
Sur Geoffroy Guichard, exactement.
Ouais, j'ai connu des soirées d'hiver bien fraîches quand même.
Déjà, on n'est pas en hiver et puis on n'est pas en soirée.
L'été dernier, lorsque nous sommes passés à Saint-Etienne, on était en pleine canicule. Il faisait une chaleur hallucinante pour le Tour de France. Bon, là, on n'est pas non plus au mois de juillet, quoi, hein, au mois d'octobre. C'est vrai qu'il fait bon, il fait magnifique. Qu'en est-il du côté de Brive, Damien Tardieu? Est-ce que vous avez du grand soleil? Est-ce que tu es en short cet après-midi pour ce match entre Brive et Toulouse?
Et en tongs, bien sûr. C'est nuageux pour l'instant, mais il fait doux à Brive. On n'est pas loin des 20 degrés, je pense. C'est plutôt pas mal. On a connu ici aussi des retours de Brive pour rentrer en Auvergne qui n'étaient pas évidents. En plein hiver, au mois de décembre, c'est pas forcément évident. 0-0, 4 minutes de jeu. Attention au Toulousain là avec Antoine Dupont. Il y aura sans doute un en avant. Il va y avoir un essai de Mathis Lebel, mais il va être vérifié à la vidéo. Non, il a mis le pied en touche de toute façon. Mais il me semble que sur cette Chistera passe dans le dos de Antoine Dupont, il y avait quand même un en avant assez large. En tout cas, il y a au moins une touche qui a été signifiée à 5 mètres des poteaux brévistes, mais ils se sont fait peur quand même là, les Corréziens, qui après 3 premières minutes où ils avaient la possession dans le camp toulousain, se sont fait contrer. Coup de pied à suivre d'Antoine Dupont, et derrière ils sont un peu en difficulté pour se sortir de leur camp. En tout cas, 0-0, 5 minutes de jeu, le lancer est assuré en touche défensive pour les brévistes qui vont pouvoir sortir de leur camp.
Voilà cette équipe bréviste qui va donner du fil à retordre à Toulouse. Julien, on a vu tout que la plupart des stars toulousaines étaient là cet après-midi quand même, hein.
Ouais, ça confirme tout à l'heure, hein, c'est qu'ils viennent ici pour s'imposer à Brive. Ils ont besoin de points pour justement continuer leur stratégie de rotation. Après, Toulouse, voilà, commence le match un peu comme le week-end dernier contre Clermont, hein. Ils ne jouent pas de leur camp, ils occupent, ils pressent, ils s'appuient sur une défense dense et disciplinée.
Ouais, il faut être très discipliné. On a vu, tiens, Alexandre Roumat, qui évidemment fait le bonheur de Toulouse depuis qu'il a été transféré de Bordeaux, et dont il se murmure qu'il pourrait bien faire partie de la liste de Galtier là, hein, pour préparer la tournée de novembre. C'est vrai qu'il est étincelant depuis le début de la saison avec le Stade. Hein.
Ah, le changement de club, hein, alors je ne parlerai pas de l'intervention de son père, mais le changement de club lui fait du bien.
Il
s'épanouit à Toulouse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'annonce est mardi prochain, il me semble. Et c'est pour ça qu'il start toulousaine. En tout cas, les grands joueurs toulousains ont tout intérêt à se montrer aujourd'hui. Et c'est le dernier match, donc Roumat en fait partie. Et ça pourrait être une belle surprise.
Et c'est Movaca qui officie au poste de talonneur et donc qui lance le ballon en touche, Damien, pour une touche dans le camp briviste. Hein.
Exactement, on est à 35 mètres des poteaux brivistes. Movaca, et c'est bien que contré par les brivistes qui ont l'un des alignements les plus solides également depuis le début de la saison. C'est Esteban Abadi qui règne dans les airs depuis le début de saison, qui a récupéré ce ballon. Les brivistes qui sortent de leur camp. Occupation aussi, mais la relance de Melvin Jaminet qui va franchir le milieu de terrain. Melvin Jaminet va-t-il récupérer ce ballon? Bien plaqué par Lobzanidze, c'est récupéré par Galtier. On est à proximité de la ligne médiane, et un petit côté à jouer pour les brivistes, mais monsieur Pierre-Baptiste Nuchy, l'arbitre de la partie, a vu un en avant. Ça sera une mêlée pour le Stade Toulousain, 40 mètres des poteaux brivistes. 7 minutes de jeu, 0-0 entre le CA Brive Corrèze et le Stade Toulousain.
Allez, nous partons à Saint-Etienne retrouver Edouard, les Parisiens qui jouent en rose, hein. C'est pas le Stade Français, c'est bien le Paris Football Club, Edouard.
Exactement, ça donne une belle couleur à cet après-midi. Pour l'instant il n'y a pas de couleur de but, hein. Même si on va peut-être tenter avec les Stéphanois. Non, finalement Victor Lebris là n'arrive pas à récupérer ce petit ballon que Cafaro essayait de donner, ou plutôt Dylan Chambost, sur cette action des Verts qui sont j'allais pas dire timides, mais en tout cas pour l'instant ils jaugent un petit peu leur adversaire du jour dans cette nouvelle configuration avec cette défense avec Masson, Briançon, Nadé et Bakayoko qui évoluent dans le couloir droit. Une équipe qui est orpheline de Jean-Philippe Crasso pour 4 match après un vilain coup donné dans le temps additionnel du match à Sochaux lundi dernier. Il est copé carrément de 4 matchs de suspension pour un coup donné hors du champ des caméras. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint-Etienne ne fait pas appel, parce qu'imaginez-vous, eh bien, il n'y a aucune image véritable de cette action. Alors c'est un coup de coude, il l'a reconnu Jean-Philippe Crasso, mais il n'y a pas de possibilité pour les Verts d'aller chercher peut-être d'amoindrir la sanction, parce que Jean-Philippe Crasso, on le rappelle, c'est 11 des 19 9 buts de Saint-Etienne, soit en but direct, soit en passe décisive. Donc c'est un gros manque, remplacé donc devant par Wadji. 8 minutes de jeu, pas trop de rythme dans cette entame de match, avec en plus là un arrêt de jeu suite à une blessure d'un joueur. 8 minutes de jeu, 0 à 0
donc entre Saint-Etienne et Paris et Football Club, deux équipes qui ont besoin impérieux de points. Brive Toulouse, leur rugby, avec les Toulousains qui sont dans les 22 de Brive. Tiens, Brive, t'es un club que tu connais bien, Julien. Je crois que tu as fini ta carrière en senior là-bas, non?
Effectivement, j'ai passé une saison. Alors, c'est pas la plus belle saison pour eux parce qu'on était descendu à la fin d'année, mais j'ai passé une année, j'ai pu découvrir un peu les joies de Brive, la Corrèze.
C'est une belle région,
c'est un joli club avec.
C'est vrai que l'hiver, c'est un peu rude quand même.
Bah pas plus qu'ailleurs.
Pas plus qu'ailleurs.
Non, ça c'est vraiment.
Est-ce que c'est plus rude à Brive ou dans le Cantal, Damien?
Ah, c'est plus rude dans le Cantal. En altitude, on n'est pas très haut hein, à Brive là. Évidemment, sur les hauteurs, dans les Moédédières ou le plateau de Mille Vaches, on est à 1000 mètres, mais là on doit être à 250 mètres, je pense, à Brive même pas. Donc oui, effectivement, c'est pas plus rude qu'ailleurs, comme le disait Julien. Et puis c'est surtout que je suis en Corrèze, j'aime bien être bien reçu, donc je vais éviter de dire du mal d'eux.
Je suis pas grillé complètement avec les Corréziens. Tu as raison.
Exactement. Et en tout cas, là, il y a une grosse charge de Richie Arnold, bien plaqué, 0-0, 9 minutes 30 de jeu. Les Toulousains ont la possession avec Antoine Dupont. Que va-t-il pouvoir nous inventer? Une passe un petit peu ratée avec Joshua Brennan, le deuxième ligne irlandais, et on ne trouve pas de solution. On va donc alterner le jeu au pied de Thomas Ramos à l'entrée des 22. Ça sera pour Thomas Larangera, solide sur ce ballon haut à l'entrée des 22. Les Brivistes, va-t-il pouvoir conserver ce ballon? Larangera, oui, ça va pouvoir sortir pour Lobzanidze. On essaie de se réorganiser côté Briviste. Pour l'instant, Julien, on voit des Toulousains, comme tu le disais tout à l'heure, qui se jettent pas, ils jouent pas absolument tous les ballons. Il y a aussi de l'occupation quand on trouve pas de solution.
Ouais, l'utilisation du jeu au pied qui est assez rapide. Hein. À partir du moment où ils n'arrivent pas à générer de l'avancée, directement on utilise le jeu au pied pour presser, pour s'appuyer sur cette défense. Hein. Au rugby, il faut savoir connaître ses points forts et ses points faibles. En ce moment, ils sont très bons défensivement.
Avec les Brivistes qui ont récupéré ce ballon, mais ils vont être rattrapés finalement par la patrouille toulousaine, avec peut-être un bon coup à jouer là-bas sur les extérieurs, avec Holding qui va porter ce ballon. Holding qui va peut-être franchir la ligne médiane. Il a trouvé une solution avec son centre. Holding qui est repris par le haut du maillot. Il y aura une pénalité à venir, avantage en cours pour les Brivistes à 40 mètres des poteaux. L'action qui est un petit peu arrêtée. Christophe, 0-0, 10 minutes 30 de jeu, et sans doute une pénalité à venir pour le CA Brive Corrèze.
Très bien, je vous donne la liste des matchs que vous pourrez suivre cet après-midi et ce soir à 17h, Castres Olympique face à Bayonne, Montpellier qui affronte le Loup, la section paloise qui reçoit le Stade Français, et l'USAP qui reçoit l'AS Clermont-Auvergne. Et puis à 21h05, Bordeaux-Bègles sera opposé au Racing 92. Enfin, demain soir à 21h05, le dernier match entre La Rochelle et Toulon. Voilà, bon programme, et tous ces matchs sont évidemment à suivre sur RMC. 0 à 0 entre Brive et Toulouse, 0 à 0 également, Edouard, entre Saint-Etienne et le PFC.
On espère avec une grosse buts, hein, action pour les Parisiens. Ça va pas faire but finalement au dernier moment. Un défenseur, en l'occurrence Michael Nadé, arrive. Non, il y avait hors-jeu au départ. Donc, mais en tout cas, c'était un petit peu difficile là pour les défenseurs stéphanois, pris à revers par la montée côté gauche de Gori, qui avait réussi à servir Guy Lavogui. Mais au final, il y a un hors-jeu. Les Stéphanois qui peuvent pousser un ouf de soulagement, toujours 0 à 0. Des Stéphanois et Laurent Batless, leur entraîneur, et qui a dû le coach bien faire déjà procéder à un premier changement, puisque Mathieu Cafaro, sur l'action que je vous décrivais tout à l'heure, eh bien carrément on a vu que les adducteurs ont sifflé parce qu'il s'est touché justement cette partie du corps, indiquant et grimaçant au docteur qu'il fallait changer. Et donc Lenny Pintor qui le remplace, bien voilà, déjà le premier changement obligé sur blessure pour Laurent Batless. Toujours 0 à 0, 12 minutes de jeu, et toujours autant de prudence pour des Verts qui sont à la recherche urgente de points, et pour l'instant ils sont un petit peu en difficulté avec la montée de Le Cardinal. Là, le bon retour de Ivan Masson qui va finalement gagner son duel, et c'est le Parisien qui va commettre une faute, et les Stéphanois vont pouvoir se dégager, et les Stéphanois qui sont largement dans leur camp puisqu'on est presque au niveau du poteau de corner. 12 minutes de jeu, 0 à 0.
0 à 0 également entre Brive et Toulouse. Les Brivistes qui viennent de gâcher une occasion d'ouvrir le score. Une pénalité de Larangera qui n'est pas passée, Damien.
Ouais, exactement, 40 mètres suite à cette pénalité que l'on vous comptait tout à l'heure. 40 mètres à droite lorsqu'on regarde les poteaux. Elle est passée à gauche des poteaux, cette pénalité de Thomas Larangera, qui est pourtant un buteur fiable. C'était pas évident. C'était une première occasion pour les Brivistes, les Toulousains, sur le renvoi en trouver une touche et les brévistes sont en train d'essayer de sortir proprement de leur camp avec Vasil Lobzanidze, le demi de mêlée géorgien. Il est bien tapé ce coup de pied, il va mettre Melvin Jaminet, c'est son frère, sous pression. La longue passe sautée pour les Toulousains, c'est dangereux ça, avec Mathis Lebel pris à 40 mètres de ses poteaux. Ça manque un peu de soutien, il va quand même réussir à s'en sortir avec Sofiane Guitoun, avec Ainou maintenant, et les Toulousains qui ont peut-être un coup à jouer sur les extérieurs avec la charge de Joshua Brennan qui joue contre son frère Daniel Brennan en face.
Oui.
Et ce sont les fils de Trevor Brennan.
Évidemment.
Ça doit parler évidemment à Julien également et à toi Christophe.
Brennan, grand joueur du Stade Toulousain, un Irlandais, un rude, qui avait également un je sais pas s'il l'a toujours ça. Je pense que Wilfried Templier pourrait nous répondre parce que évidemment les bars et les pubs c'est son truc. Mais il avait un pub dans Toulouse.
Et effectivement, il avait un pub très sympa. Il fallait bien se tenir par contre dans le pub. Hein. Il fallait être très
carré. Ah bah oui, tu vas pas déclencher les bagarres parce que là, je pense que là tu vas te faire recevoir. Hein, je vais recevoir le message de Wilfried dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas.
Comment va Melvin Jaminet?
Melvin Jaminet est au sol, Julien, effectivement, sur la ligne des 40, là, on est en train de s'affairer cheville gauche, me semble-t-il, et on a fait signe au changement. Alors ça, c'est important. Melvin Jaminet au sol, touché cheville gauche, peut-être. Alors j'ai pas vu sur l'action, mais il se remet au sol, là, il se tord de douleur. Hein. Ça a l'air d'avoir tourné assez sérieusement, cheville gauche, il va y avoir un changement. Et c'est, me semble-t-il, Juan Cruz Malia qui est en train de se préparer, mais après 14 minutes de jeu, 0-0 entre Brive et Toulouse, mais c'est vrai que la tournée d'automne arrive. Et là, c'est un coup dur peut-être pour l'équipe de France. On va voir ça. Il va sortir Melvin Jaminet. En tout cas, c'est le premier coup dur pour le Stade Toulousain.
Et oui, effectivement, un coup dur pour le Stade Toulousain et peut-être coup dur pour l'équipe de France. On rappelle que la liste de Fabien Galthié sera communiquée mardi et que Jaminet, au vu de son début de saison, était évidemment indispensable et incontournable dans cette équipe de France, Julien. Donc attention, on va suivre ça avec inquiétude.
Ouais, et il sort aidé par deux soigneurs.
Ah oui, ça a l'air assez sérieux.
Ça a l'air d'être assez sérieux. Ouais, il a du mal à poser le pied gauche. Il me semble que c'est la cheville. En tout cas, on suivra ça. Et c'est Juan Cruz Malia qui, lui, a terminé le Rugby Championship où il a été d'ailleurs à son avantage globalement avec l'Argentine qui est rentrée pour les Toulousains. 14 minutes de jeu ici au Stadium Amédée Domenech qui est plein comme un œuf. 0-0 entre Brive, le 11e, et le Stade Toulousain, le leader de ce top 14.
Ok, 0-0 entre Brive et Toulouse. Edouard, le quart d'heure de jeu à Geoffroy Guichard.
Avec le premier corner de la partie. Toujours 0-0, il est pour les Verts devant leur Cop Nord. Vous entendez, il y a une belle ambiance cet après-midi à Geoffroy Guichard avec la patte gauche là-bas de Mongondui au premier poteau, la poussette. Finalement, c'est pas de Filipovic le gardien de but, mais c'est de Wadji que signale cette poussette. L'arbitre Alexandre Péroniel sur cette action. Sûrement un coup de coude d'abord de l'attaquant stéphanois sur le portier parisien. Toujours 0-0, et c'est la première fois que les Verts mettent un petit peu en danger la défense parisienne, parce que jusque là le ballon est monopolisé par les hommes de Thierry Loret qui sont bien organisés et qui poussent les Stéphanois à vraiment faire beaucoup beaucoup de prudence. Et au milieu de terrain, ils perdent de nombreux ballons, notamment Bouchouari qui d'habitude est un petit peu plus propre que ça. Il a une entame difficile, le Marocain. Bonne pioche en début de saison, soufflé à la D2 néerlandaise. Mais là aujourd'hui il débute mal et du coup des ballons qui étaient dans les pieds des Stéphanois se retrouvent dans les pieds des Parisiens et ça crée des situations justement pour les Parisiens. 16 minutes 30 de jeu, toujours 0-0, et pour l'instant pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faudrait que les deux équipes appuient un petit peu sur l'accélérateur et tentent un petit peu mieux pour qu'il y ait de la vie sur le terrain, alors qu'il y a beaucoup de vie dans les tribunes, tout simplement parce qu'il y a vraiment une belle ambiance cet après-midi sous le chaud soleil de Geoffroy Guichard.
Très bien. Alors la réponse concernant le pub de Brennan, je n'ai pas eu de Wilfried Templier, mais de son disciple, de son disciple Julien Landry, qui lui aussi en matière de pub s'entend. Il nous dit que Brennan a vendu son bar à Toulouse, mais il en a ouvert un autre, le Brennan's Bar, à Castelginès dans la banlieue toulousaine. Voilà. On sait tout là au niveau des. Là, je peux vous dire qu'au niveau des pubs.
Ça, les correspondants en région, ils sont top. Hein.
T'en connais quelques-uns, toi aussi. Fais pas ton malin. Hein. Très bien. Je sais plus où j'en étais là. On va où là? On va à Brive, Julien? Tiens, est-ce que t'as quelque chose à me dire sur ce match? Brive-Toulouse, vas-y. Là, crache ton venin.
Alors, quel Julien? Parce que du coup.
Il y en a trop. Non, là, il y a Damien.
Il y a Damien d'un côté, il y a Edouard de l'autre, et Julien, c'est ici, il n'y en a qu'un. Voilà, il est largué, il est complètement largué.
Ça a du mal un peu à se décanter, non, il me semble, sur ce match. Ça attaque, ça répond. Il n'y a pas vraiment de grandes envolées encore. On voit des brillistes un peu fébriles, hein, qui commettent pas mal d'erreurs de main. Et peut-être crispé aussi, hein, l'épée de Damoclès, hein, deux défaites à domicile, ça crispe, ça stresse un peu. Ça serait bien qu'il score, qu'il commence à engranger les points pour un peu décomplexer par rapport à ce grand Stade Toulousain.
Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de fautes de main de part et d'autre. On en est, alors j'ai pas compté le nombre de mêlées, mais ça fait beaucoup. Pour l'instant d'ailleurs, les Brivistes résistent bien dans cette épreuve de la mêlée fermée. 17 minutes, aucun point de marqué, 0-0 effectivement. Les Brivistes sous pression, 11e, 11 points. Ils restent surtout sur une lourde défaite, Fanny, hein, 47-0 à Toulon, avec une équipe certes remaniée, rajeunie. Il y avait, je crois, 24 ans de moyenne d'âge la semaine dernière du côté de Toulon pour cette équipe Briviste. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas le début de match idéal pour se rassurer, bien que les Toulousains pour l'instant soit pas non plus montré dangereux. La mêlée va être à refaire. Bref, Christophe, si tu veux tourner, 18 minutes 0-0 ici à Amédée Domenech entre Brive et Toulouse.
On attend toujours les premiers points dans ce match. On rappelle l'une des informations importantes de ce début de match, la sortie tout à l'heure de Melvin Jaminet, qui semble souffrir sérieusement de la cheville, l'arrière du 15 de France et de cette équipe toulousaine, donc blessé. On aura de ces nouvelles un peu plus tard dans l'après-midi. Saint-Étienne sous le soleil, mais tout d'abord nous allons au Quintet. Le Quintet, c'est à Auteuil aujourd'hui et c'est avec Mathieu Zaccanini. Salut Mathieu.
Salut Christophe. En effet, nous sommes à Auteuil pour une épreuve réservée à des sauteurs dans la discipline des haies. Là, on est dans la ligne d'en face. C'était une épreuve qui se disputait sur la distance des 3900 mètres et c'est toujours le grand animateur, le numéro 12, Captain, qui tente de repartir. Et on peut voir que le peloton est très égrené. Pour l'instant, Captain se détache irrésistiblement. On dépend du numéro 16 dans le tournant final. Numéro 16 qui est un des chevaux en vue, c'est Grand Oncle. En troisième position, on peut toujours noter la présence d'Happy Day. En quatrième, sur une quatrième ligne, on peut noter le numéro 11, Six One, qui semble encore compétitif pour le podium. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien pour le grand animateur, le numéro 12, Captain, qui repart et qui laisse sur place ses adversaires. Il va rester deux haies à sauter pour ce cheval qui était assez en vue dans cette compétition, le numéro 12, Captain. S'il saute bien, normalement, ça doit le faire, même si pour l'instant, c'est pas totalement fini. Il y a un retour du numéro 11, Six One, ainsi que du numéro 16, qui va tenter de conserver la troisième place, Grand Oncle. Il y a encore une bonne fin de course derrière du numéro 14, Chichi de la Vega, alors que le numéro 12, Captain, a sauté cette dernière haie de belle façon. Et le numéro 12 part tout simplement s'imposer dans cette compétition. Il l'aura fait tout seul, le 12, Captain, qui pour l'instant domine largement le numéro 11, Six One. Il y a des gros écarts aujourd'hui, le terrain est très très lourd et c'est ce qui justifie ces écarts. Victoire du numéro 12, Captain, aux dépens du numéro 11, Six One, qui ne le mérite pas, qui se classe bon deuxième. La troisième place a été obtenue, me semble-t-il, par le numéro 14, Chichi de la Vega, aux dépens de l'un des chevaux en vue, le numéro 16, Grand Oncle, qui se comporte bien. Et il y aura une photographie pour la cinquième place, en tout cas pas de problème pour l'animateur de la compétition, le numéro 12, Captain, qui l'a fait de bout en bout en patron aujourd'hui. Très facile victoire à 22-1, c'était un outsider. Deuxième place pour le numéro 11, Six One, qui se comporte de très belle manière, c'était l'un des chevaux en vue. La troisième place est revenue au numéro 14, Chichi de la Vega, aux dépens du numéro 16, tout à la fin. Et c'est le numéro 3 qui va se classer, donc qui va se classer cinquième. Le numéro 3, ça me surprend parce qu'il était très très loin et il est revenu du diable au vert, ce numéro 3. Il était presque hors course, on va dire, dans la ligne d'en face, et il est revenu, il a refait beaucoup de terrain sur ses adversaires pour se classer excellent cinquième. Je récapitule donc l'arrivée encore provisoire du Quintet Plus disputé aujourd'hui sur l'hipporome d'Auteuil: 12, 11, 14, 16 et 3. Et je reviens sur les coups de 16h, Christophe, pour donner l'arrivée et les rapports de cette compétition. À tout à l'heure.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Mathieu. 15h21 sur RMC. On fait le tour de nos terrains. On attend désespérément le moindre point, le moindre but. Messieurs, il va falloir vous bouger un peu quand même, ou dire aux joueurs qui sont sur le terrain de le faire. On commence par le rugby. Damien, Brive, Toulouse, c'est rare, un match de rugby avec rien de marqué au bout de 20 minutes.
Ouais, 20 minutes, 0-0. Nouvelle en avant là des Toulousains. Et attention au contre pour les. En avant des Brivistes. Et le contre Toulousain. Antoine Dupont va aller plus vite que la rendira. Dupont qui ramasse et qui va aller aplatir. Alors est-ce qu'il a été retourné? Et est-ce qu'il a été retourné? Il me semble qu'il a essayé. Oui, d'Antoine Dupont, l'essai est validé. Ben voilà, Christophe, suffisait de demander. Moi, on me demande, je fais. 20 minutes 50 de jeu. Le premier essai toulousain. Antoine Dupont, plus rapide que Thomas Larandira pour aller aplatir sur ce coup de pied à suivre. Sur un en avant à la base de Tuikouvou pour les Brivistes. Ils se sont fait contrer, les Brivistes. Et voilà le leader toulousain qui ouvre le score ici à Brive. 22 minutes de jeu, 5-0 pour le Stade Toulousain.
Ah, il faut pas faire la moindre erreur hein, quand Dupont traîne par là, Julien. Ah,
effectivement, quand on a des joueurs de cette qualité-là, la moindre faute d'indiscipline ou de main est vite exploitée. On le voit avec Dupont en plus qui va très très vite. À noter quand même le joli pied de Jolonge quand même, ouais. L'opportunité, certainement la communication de Dupont à côté de lui. Voilà, résultat, premier essai pour le Stade Toulousain.
Et malgré le retour désespéré de Stuart Holding qui a essayé dans l'embut de retourner Antoine Dupont, mais il est gainé le type et il est venu aplatir évidemment 22 minutes et la transformation à venir en position moyenne pour Thomas Ramos.
Ok, il y a un corner pour Saint-Etienne, Edouard.
Oui, tu me mets la pression, hein,
ah
Damien.
Bah, intérêt,
qui,
ouais, ouais.
Il y a un essai, il met l'essai. Moi, je vais essayer. Toujours 0-0, 23 minutes de jeu sur un corner pour Thomas Monconduit. Donc, c'est pour Saint-Etienne, alors qu'il y a un petit arrêt de jeu, puisqu'on est en train de soigner le gardien croate du PFC, Ivan Filipovic. Il va tenir sa place quand même pour au moins ce corner. On va prendre du temps. Est-ce qu'il va y avoir un changement sur le coup? Il va tenir quand même sa place. Il a l'air de vouloir et de tenir sa place. En tout cas, les soigneurs quittent l'aire de jeu. Et donc, Thomas Monconduit va pouvoir taper ce corner, le deuxième corner de la partie avec des Verts qui commencent à s'organiser. On a vu une belle action de Lenny Pinter qui a centré. C'est Bakayoko qui était à la retombée pour la tête. On va voir sur ce corner et la bonne sortie de Filipovic, donc qui s'est bien remis de ses émotions récentes. Et voilà, là je peux pas répondre à la demande. 0-0, bah, 24 bah, non, minutes de jeu, je sais
toi,
que tu vas.
Bah,
non, voilà, 0-0.
Et ouais.
Putain, merci.
On peut pas faire aussi bien que Damien Tardieu. En plus, on lui a coupé la transformation, Damien.
Ouais, elle est passée cette transformation. Ouais. Beaucoup d'applications pour Thomas Ramos.
Alors c'est Ramos, hein.
Là, c'est ouais. Ramos, ouais, ouais, c'est ça. 23 minutes, 7-0 pour Toulouse. Et on rappelle que Toulouse a perdu tout à l'heure Melvin Jaminet blessé à la cheville.
Qui a remplacé d'ailleurs Jaminet à l'arrière?
C'est Juan Cruz Malia.
Voilà, Capuozzo n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas dans le groupe.
Comment?
Capuozzo n'est pas dans le groupe.
Non, il n'est pas dans le groupe. Il n'est pas dans le groupe, la nouvelle pépite. Arrivé de Grenoble, me semble-t-il. En tout cas, 7-0 pour Toulouse, 23 minutes de jeu.
Très bien, 7-0 et 0-0 de l'autre côté. On revient dans un instant.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
Ouh, un tampon à l'ancienne, asséné par un briviste à notre ami Roumat, là, qui a eu du mal à se relever quand même, Julien. Ah, c'était du sévère. Hein.
Ça va pas l'aider à se faire montrer pour la liste. En tout cas, il s'est sacrifié. Bon, malheureusement, il couvait en avant sur la passe.
Et on rappelle que Toulouse mène 7-0 sur la pelouse de Brive après un peu plus de 25 minutes disputées. Alors, des Toulousains qui mènent, des Toulousains qui gèrent depuis le début de la saison avec Hugo Mola qui alterne les équipes, qui n'a pas d'équipe type comme la saison dernière où ils ont joué tout le monde, toujours, tous les mêmes. Là, ça change. On gère évidemment parce que la saison est longue. Hein.
Ouais, la politique de la meilleure équipe pour engranger le maximum de points, souvent on le fait, on l'adopte à partir du moment où on est un peu en retard sur le tableau de chasse. Et là, dès le début, mis à part cette défaite à Pau, ils sont dans les cordes, ils engrangent des points, donc ils peuvent se permettre d'incorporer tout l'effectif. C'est bien pour l'élimination d'un groupe, ça permet d'intéresser tout le monde et les entraînements sont de meilleure qualité et surtout quand le joueur est intéressé, il répond présent.
7-0, donc avantage pour l'instant au Toulousain, Damien.
Oui, avec encore une mêlée là suite à donc cet énorme tampon de Tuikouvou sur Alexandre Roumat qui a donc fait en avant comme le disait Julien. Et il y aura une nouvelle mêlée. Monsieur Pierre-Baptiste Nuchy a du mal à se faire respecter en mêlée. C'est un peu plus brouillon depuis quelques temps. Côté Brivis d'ailleurs un changement au poste de talonneur. Lucas Da Silva a remplacé Motu Matu. Sans doute Jérémy Davidson a vu peut-être des petites difficultés pour son talonneur et la rentrée de l'ancien joueur du Stade français qui s'est signalé. Dès la première mêlée où ça s'est un peu monté dans les tours avec les avants toulousains, c'est une mêlée intéressante à jouer pour les brivistes. On est à 38 mètres des poteaux, l'introduction à venir pour Vasil Lobzanidze. Monsieur Nuchy qui laisse jouer avec Papali qui essaie de s'échapper, qui essaie de faire des différences, qui passe après contact pour Vasil Lobzanidze. On a gagné quand même 5 mètres côté briviste, c'est une possession à 35 mètres maintenant des poteaux avec la charge maintenant de Daniel Brennan, le pilier irlandais de cette équipe briviste. Le ballon ramassé, mais c'est un petit peu lent tout ça. Avec Holding, on essaie de remettre de l'avancée avec le centre Samy Arnold. Pour l'instant, les Toulousains sont bien en place défensivement. Larangira là qui est bien pris, notamment attention au grattage d'Arthur Bonneval. Les Brivistes ont du mal, Julien, pour l'instant, à faire des différences là.
Effectivement, il s'appuie vraiment, on sent un rideau défensif qui ne recule pas, même malgré on a vu un Roumat qui a reculé, qui a subi un raffut de Bonneval. Et surtout ce joueur, hein, ce numéro 8 Brice Papavli, qui est vraiment très en forme, qui fait un début de saison tonitruant, mais il ne trouve pas les brèches, il n'arrive pas à franchir, à breaker cette ligne. Donc et voilà, il commet des fautes. Alors, ouais. Pour le coup, ça c'est Toulouse qui a commis la faute.
Et on va aller en touche côté Briviste, alors qu'elle était tentable, même si elle est pas loin d'être en coin, cette pénalité. On a décidé avec Stuart Holding d'aller en touche. C'est vrai que c'est un secteur où ils sont bons depuis le début de la saison, je le disais tout à l'heure, avec la véritable tour de contrôle qu'est Esteban Abadie. Ils vont avoir donc une touche à suivre à une quinzaine de mètres des poteaux toulousains. On rappelle le score 7-0 pour Toulouse après 28 minutes.
Ouais. Esteban Abadie, hein, qui était passé par le Racing en jeune, qui est un joueur qui n'est pas le profil atypique, hein, du 3e ligne de top 14, mais extrêmement intelligent. Et quand on couple ça avec la malice et l'expérience d'Arnaud Mella, c'est... Ouais. Ça donne un bon résultat.
Il s'occupe de ce secteur, évidemment, dans le staff briviste, avec le lancer à venir pour Lucas Da Silva.
Lucas Da Silva, ancien joueur du Stade Français, formé à Paris et qui est à Brive désormais, talonneur de cette équipe. Il est entré en jeu il y a quelques minutes. La touche, Damien.
Elle est captée en milieu d'alignement et on essaie d'organiser un ballon porté côté toulousain. Mais il y a Richie Arnold qui, comme tout à l'heure, a me semble-t-il mis les bras, qui vient un petit peu perturber l'effort briviste. Pour l'instant, ça n'avance pas. Monsieur Nuchy va sans doute faire signe qu'il y a un premier arrêt sur ce ballon porté. Est-ce que les Toulousains vont réussir à pourrir ce ballon? Il est jouable, fait-il signe. On est vraiment à l'entrée des 22 Toulousains. Et ballon rendu aux Toulousains. Ils ont réussi à le pourrir avec notamment Richie Arnold qui a fait un gros travail sur cette touche. Les Brivistes pour l'instant essaient, mais n'y arrivent pas. 29 minutes de jeu. C'est Toulouse, le leader, qui mène ici en Corrèze 7-0.
Un alignement toulousain quand même qui est beaucoup plus grand. Il me semble qu'il y a une moyenne de 2m06 pardon, par rapport à un alignement Briviste un peu plus petit. Hein. La tâche est compliquée quand on a un Arnold qui passe les bras pour la défense, qui arrive
tour
à s'insérer. C'est quand même très très compliqué. Ouais. La tâche est rude.
7-0 donc pour le Stade Toulousain après quasiment une demi-heure. On a dépassé la demi-heure à Geoffroy Guichard, mais on n'a toujours pas marqué, Edouard.
Oui, 33 minutes de jeu, les nerfs à vif là dans cette rencontre tout d'un coup, puisqu'il y a une grosse faute d'un Stéphanois, en l'occurrence Dylan Chambost. On va voir ce que va dire l'arbitre, mais ça peut être un carton rouge sur le coup, parce qu'il y est allé toujours 0-0, hein. 34 minutes de jeu, cette équipe de Saint-Etienne, la pire équipe au niveau du fair play. Imaginez-vous que depuis le début de la saison, c'est 6 jaunes, 6 rouges et 34 jaunes, et il y en a déjà un 35e, puisque Bouchouari a écopé justement d'un avertissement il y a quelques secondes de cela. Et Alexandre Pierre-Niel est en train de réfléchir. Pour l'instant, il n'a pas donné d'avertissement. On va suivre ça, en sachant qu'il n'y a pas de VAR, hein, en Ligue 2, mais ça peut être un moment charnière dans cette rencontre, puisque le Parisien n'arrive pas à se relever, et ça peut valoir un rouge là pour Dylan Chambost. On va suivre ça avec beaucoup d'engagement. En tout cas, le jaune, il est presque évident, et la couleur peut virer au rouge. On va suivre ça si surtout le joueur n'arrive pas à se relever, le Parisien. 0-0 avec des Stéphanois qui sont en train une nouvelle fois de perdre les nerfs. Je vous parlais de ces cartons rouges qui s'accumulent à Sochaux. Ils ont fini à 9. On se rappelle aussi du match face au Havre ici même. On va voir ce que va dire l'arbitre, alors qu'il a appelé justement les deux Dylan Chambost, car ça sera un carton jaune pour Dylan Chambost sur cette action. D'autres moments, on aurait peut-être vu un carton rouge, mais bon, tant mieux pour l'égalité des débats à la 35e minute de jeu. Mais il va falloir que notamment les Verts retrouvent un petit peu de sérénité, parce que là, entre Bouchouari et Chambost, ça fait deux nouveaux avertissements dans l'histoire en Ligue 2 en 12 matchs. 42 avertissements, ça fait quand même beaucoup. 36 minutes de jeu, et à part ça, eh ben jusqu'à présent, mon cher Christophe,
il n'y a pas grand chose à se mettre
non,
sous
non,
la dent,
non,
hein,
non,
pas, pas grand chose à croquer,
non,
mon petit gars,
exactement,
hein.
Non, simplement des pois chiches qu'on nous a donné pour manger, donc
ah, c'est pas mal.
Non, c'est pas sur les pois chiches que je vais me remanger, quoi, en fait. Si
ah, mais est-ce que tu as été à la brasserie de Geoffroy Guichard?
Non,
qui est une brasserie
encore.
Maintenant,
bah oui, il y a une brasserie avec vue sur la mer,
vue sur la mer, oui. Tu t'es convaincu, t'es sûr, t'es bien à Saint-Etienne, t'as bien compris.
Ben, quand je vois tous les gens qui sont torse nu, je me dis, ils sont peut-être à la plage,
oui,
c'est pour
oui,
ça.
Oui, t'as pas l'habitude.
T'imagines, on est obligé de meubler avec ça, parce qu'il n'y a rien à dire sur le terrain. 0-0, 36
allez, tiens,
minutes de jeu.
On va aller voir le monsieur qui fait la pub, il va nous donner des sous. A tout de suite pour la suite de ces deux matchs. 7-0 pour le Stade Toulousain face à Brive, 0-0 entre Saint-Etienne et le Paris Football Club. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport. Christophe Cessieux.
15h39, vous êtes sur RMC, deux directs en ce milieu d'après-midi sur RMC. Le rugby avec le top 14, ce match entre Brive et Toulouse. 7-0 pour les Toulousains en terre briviste. Et puis le foot, la Ligue 2 sous le beau soleil de Geoffroy Guichard. C'est pas vraiment le grand spectacle cet après-midi entre Saint-Etienne et Paris, Edouard.
Ouais, pas de but pour le moment. 0-0, 40 minutes de jeu avec, finalement, Bakayoko qui se plaignait. Il se touchait la cuisse, notamment derrière. On imaginait que c'était les ischios. Mais il va rentrer, donc pas de changement obligé sur blessure. On rappelle que Cafaro s'est blessé dès la 8e et que Lenny Pintor a dû le remplacer du côté des Verts. Un coup franc à suivre pour Thomas Monconduit. La balle dégagée de la tête par la défense, en l'occurrence c'est Chergui qui a balancé ce ballon, et le ballon qui va être récupéré une nouvelle fois par Adjam et par les Parisiens, avec une faute de Lenny Pintor sur le retour, et donc les Parisiens qui vont pouvoir se dégager. Beaucoup de fautes, peu d'action, un seul tir cadré du côté de Saint-Etienne, de pauvres tirs non cadrés du côté des hommes de Thierry Loret. En 41 minutes, on n'a pas vu grand-chose ici à Geoffroy Guichard, 0-0.
Oui, pas grand-chose donc à voir pour l'instant, mis à part les magnifiques maillots roses du Paris.
Oh, l'essai toulousain, il va y avoir le contre, et l'essai de Richie Arnold qui va aller aplatir et punir des Brivis qui étaient pourtant en train de relancer. 36e minute de jeu, Richie Arnold qui sent bien le coup et qui intercepte à 40 mètres des poteaux cette passe briviste. Et voilà, les Toulousains qui sont pas sensationnels non plus, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui sont hyper réalistes et hyper opportunistes. Deux essais à zéro passe quasiment, et les voilà qui mènent 12-0 à Brive à 3 minutes de la mi-temps.
Le réalisme toulousain, Julien.
Ouais, la stratégie est claire, on l'a vu dès le début du match, hein, une grosse défense. Ils essayent de prendre toutes les opportunités qu'on leur donne, malgré quand même, je trouve, pas mal d'erreurs de main quand même des Toulousains. On l'a vu tout à l'heure sur la paire de balles, il me semble que c'est Guitouno en passant au sol, mais après voilà, ils arrivent avec une bonne défense à anticiper. Et quand on a des compas comme Richie Arnold, c'est facile, le terrain est beaucoup plus court, hein.
Effectivement, il fait quelques pas de moins que nous, Richie Arnold, impeccable, qui a bien senti le coup, et ça sera sans problème la transformation pour Thomas Ramos. Et voilà comment Toulouse, qui effectivement balbutie un peu son rugby. Alors je suis peut-être un peu méchant en disant cela, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes de main, ils ont perdu des lancers en touche aussi, et pourtant ils mènent 14-0 face à des Brivis qui, alors certes, n'ont pas eu de grosses occasions, mais qui globalement arrivaient quand même à se défendre plutôt pas mal depuis le début de cette partie. Et le public est pas content parce qu'il estimait qu'il y avait une position de hors-jeu côté toulousain. Ça fait plusieurs fois qu'il grogne, le public corrézien, pas d'accord avec les décisions de monsieur Pierre-Baptiste Nuchy. En tout cas, 2 minutes avant la mi-temps, et pour l'instant c'est la belle affaire pour Toulouse, 14-0 à Brive.
Ouais, ça va être compliqué pour les brivistes, hein, de remonter deux essais à Toulouse désormais.
Ouais, surtout qu'ils sont ultra confiants après tout, surtout que Brive met toutes ses forces en attaque, ils n'arrivent pas des pertes de balles, de l'imprécision. On a vu en conquête, ils ont sorti les deux piliers, parce que la première ligne entière pardon, parce qu'ils avaient des difficultés. Ça commence à être compliqué, mais attention, hein, Toulouse est une grande équipe, et comme chaque grande équipe, elle doit être capable de s'adapter et d'adapter son type de jeu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va pas avoir des grandes envolées, alors peut-être en seconde période, mais en tout cas, ils sont capables d'avoir un jeu minimaliste et très pragmatique.
Et pour l'instant, ce serait 0 point pour les Brévis qui, on le rappelle, étaient 11e au classement du top 14 en début d'après-midi, avec seulement 11 points. Ils devancent Bordeaux-Bègles d'un petit point et Perpignan de 2 petits points. La section paloise venant terminer ce classement avec 8 points. Ça va être serré de toute manière. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui se détache complètement en bas de tableau. On rappelle, ça va être très très chaud, comme d'habitude, jusqu'à la fin de la saison, hein, pour la descente.
On se rappelle l'année dernière, le championnat avait donné son verdict à la toute fin de la dernière journée, hein, que ce soit pour les qualifiés, pour les phases finales ou pour les relégables. C'est vrai que Brive, ben, voilà, ils sont habitués depuis quelques années à jouer ce championnat du bas de tableau pour le maintien. Malheureusement, tous les points à domicile comptent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait dommage quand même de perdre une opportunité de prendre des points contre les gros.
Et oui, pour l'instant, 0 point pour les Brivis, menés donc 14-0 par le Stade Toulousain, qui fait même pas forte impression cet après-midi, mais qui a fait preuve de beaucoup de réalisme. Et avec eux, il ne faut pas laisser tomber et traîner beaucoup de ballons. Les Toulousains s'en régalent. Est-ce que les Stéphanois se régalent des ballons cet après-midi face à Paris, Edouard?
Non, pas vraiment, hein, alors que peut-être toujours 0-0, il y a peut-être un petit coup à jouer là avec Dylan Chambos, mais faute technique là sur son crochet. Le ballon est trop loin, mal contrôlé. Et du coup, ce sont les Parisiens qui peuvent récupérer alors qu'il reste une petite minute. Il y aura sûrement du temps additionnel parce qu'il y a eu deux arrêts de jeu suite à des blessures, notamment de Cafaro. Lenny Painter l'a remplacé du côté de Saint-Etienne dans la mesure où pour l'instant cette partie n'a guère livré de belles choses, hein, à part un tir pour les Stéphanois qui n'a pas forcément mis en difficulté le gardien croate des Parisiens, Filipovic. Et puis derrière, de nombreuses fautes à l'image de Victor Lobry là, qui va mal tacler le Cardinal. Et du coup, bah, ça va nous donner un coup franc pour les Parisiens, alors qu'il va y avoir, oula, carrément 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes de régal. En tout cas, on espère qu'il y a une petite euphorie, en tout cas une petite éclaircie dans ce temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel dans cette première période et peut-être une première escarmouche, justement parce qu'on y entre dans ce temps supplémentaire, pour Florent Hanin là, qui va taper ce coup franc qui est une sorte de corner largement ouvert à hauteur des 16,50 m du pied gauche. Est-ce qu'il va tenter directement ou est-ce qu'il va chercher la tête d'un de ses coéquipiers? Voilà la balle qui est partie, balle dangereuse pour le gardien de but qui est finalement suppléé par un défenseur, en l'occurrence Thomas Monconduit, qui était sur le coup et qui met ce ballon en corner. Corner à suivre donc pour les Parisiens, toujours 0-0, mon cher Christophe.
Et bien, on va revenir vers toi dans un instant et vivre les 4 minutes de temps additionnel parce que c'est terminé du côté du Stadium de Brive. C'est la mi-temps en tout cas, Damien. C'est ouais. Donc sur le score de 14-0.
Exactement, 14-0 pour Toulouse. Des Toulousains opportunistes, on le disait. Un ballon perdu à 40 mètres, un coup de pied à suivre et un essai de Dupont à la 22e. Et puis une interception de Richie Arnold également à 40 mètres alors que les Brivistes étaient en possession du ballon. Les deux essais transformés par Thomas Ramos. On rappelle également l'information de la blessure, semble-t-il, cheville gauche pour Melvin Jaminet en début de match. Pour l'instant, Toulouse en tout cas fait le job sans être excellent. 14-0 à la mi-temps ici à Brive.
Et voilà, tous les internationaux, on va s'inquiéter tout au long de l'année lorsque ceux-ci vont tomber pour blessure. Mais là, c'est vrai que la tournée semble mal barrée quand même pour Melvin Jaminet. On vous donnera des nouvelles dès qu'on en a. Damien, dès que tu peux savoir de quoi il souffre, même évidemment, ce sera difficile de le savoir tout de suite. Merci Damien, à tout à l'heure. Julien, pour la deuxième mi-temps. Mais là, bon, Toulouse est sur un boulevard. Hein.
Ouais, j'ai plutôt envie de parler de Brive. Hein. Ouais. 120 minutes, 0 point de marqué. Ça commence à être dur, à mon avis. Le moral est au plus bas. Il va falloir vraiment trouver des solutions pour repartir de l'avant. Donc, Toulouse, pour l'instant, fort sur ses bases et qui fait le match quasiment parfait à l'extérieur.
Ok, 2 minutes de bonheur supplémentaire pour Edouard pour ce match et cette première mi-temps entre Saint-Etienne et Paris. Vas-y, l'antenne est à toi, Edouard.
Ah, magnifique, magnifique. 2 minutes de temps, 120 secondes, effectivement. Mais il a failli avoir un joli but pour les Parisiens sur le corner. Attention, on va peut-être suivre Mandouki là dans la surface de réparation avec Nadé qui va mettre ce ballon en corner. Voilà, le troisième corner parisien. Le corner précédent avait obligé Etienne Green à une parade qu'il a complètement manqué. Il était sorti avec des gants très glissants. Le ballon est revenu sur la tête d'un Parisien qui a remis en arrière pour Morgan Guilavogui qui a tenté la bicyclette. Et ben, c'est passé juste au-dessus. Donc là, le but aurait été beau. Il y a peut-être une deuxième tentative pour les Parisiens avec toujours Florent Hanin là, qui va s'y essayer. Il va faire un corner à deux avec Mandouki qui va centrer ce ballon qui est trop excentré, qui va quand même être récupéré par Gori du côté des Parisiens qui termine bien cette première mi-temps, toujours 0-0 avec le slalom perdu par un attaquant parisien et les Stéphanois qui, si finalement par Bakayoko, arrivent à repartir. C'était limite, cette balle est désormais en touche puisqu'un Parisien justement a mis cette balle en touche. Il reste 45 minutes pour la deuxième mi-temps, mais 45 secondes dans ce premier acte avec des verts très très empruntés, prudent au départ et puis finalement emprunté au niveau technique. On sent qu'il manque quelque chose, il manque de la confiance pour réussir des gestes et ça se voit avec en plus ce manque au milieu, devant plutôt, de Jean-Philippe Crasso, l'attaquant, celui qui met les buts, qui concrétise tout. Et bien il y aura eu beaucoup de il n'y aura rien eu presque dans cette première période, en tout cas déjà peu d'action et encore moins de buts, mon cher Christophe, mon cher Julien. 0-0.
Tu nous régales Edouard, je sens que tu te régales surtout.
Bon allez, je vais à ma salade de pois chiches.
Va voir, là, t'es pois chiches à la la brasserie du stade. Hein. Une très très belle.
Je mets sur ton compte, c'est bon.
Ouais, tu as
toujours la même carte bancaire.
Je suis très content que le patron nous a fait offrir plein de bouteilles pendant le Tour de France. À boire avec modération, évidemment. Enfin, ça,
des bouteilles d'eau.
Oui, des bouteilles d'eau. Ah ouais, oui. Ok, allez, à tout à l'heure. Bonne mi-temps. Voilà donc pour le foot, on rappelle. 0 à 0. Pas un match qui restera dans les annales, mais il reste une deuxième mi-temps. Et puis donc, 14 à 0 pour le Stade Toulousain sur la pelouse de Brive. Ça, c'est fait pour les Toulousains. 15h49 sur RMC. À tout de suite.